RTL L'Équipe, le Café des Sports, Emmanuel Barthe.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL L'Équipe. J'accueille aujourd'hui un des journalistes les plus populaires, je crois qu'on peut le dire, chroniqueur au CFC Canal Football Club. Il connaît bien la maison RTL, Pierre Ménès, et l'invité du Café des Sports, le face-à-face à retrouver dans quelques secondes. Au programme, les débats du Café, comme tous les jours à partir de 14h, et priorité au football. Sixième match des éliminatoires de l'Euro 2012, Biélorussie, France, coup d'envoi, 20h50, pronostic et enjeu à venir avec nos spécialistes en deuxième partie d'émission. Sans oublier, évidemment, le tennis. Après les femmes, place aux demi-finales du tableau masculin. Nadal opposé au Britannique Andy Murray. Enfin, Roger Federer devra se défaire du numéro 2 mondial, Novak Djokovic. C'est le Café des Sports, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RTL L'Équipe, le Café des Sports.
Pierre Ménès, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ça me fait plaisir de vous recevoir dans ce Café des Sports. On va revenir sur votre parcours, sur votre actualité. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à dire quand on reçoit Pierre Ménès en studio. Le football, évidemment, la télé maintenant, Canal+, le Canal Football Club. Il y a eu par le passé RTL. Tiens, justement, quel souvenir vous gardez de votre passage dans la maison ?
Extraordinaire, extraordinaire. C'est incroyable ici, t'arrives au bout de 2 semaines, t'as l'impression qu'il y a les Charentaises qui t'attendent. C'est une famille. J'ai que des bons souvenirs de du service des sports. Beaucoup de gens talentueux. Des gens avec qui j'ai gardé des vrais liens, une vraie reconnaissance pour Christian Olivier, tant dans mon départ, parce que j'ai signé en exclusivité à Canal, mm-hmm. qui est un choix de carrière éminemment logique. Voilà, son comportement là, et puis même son comportement pendant 2 ans avec moi, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un de respectueux. D'attentif. Ça, je trouve que pour un chef, être attentif, c'est une qualité immense. Voilà, je suis resté que 2 ans, c'est pas très très long, 2 ans dans une carrière professionnelle, surtout moi qui ai fait en général des bails assez longs, hein, 21 ans à l'équipe. Mais voilà, je vais faire comme les joueurs. Voilà, RTL, ça a une place à part pour moi et je reviendrai un jour.
C'est rare d'entendre parler comme ça du métier, des confrères. Généralement, on est assez critique. On dit que c'est un milieu qui est très difficile.
Ah ben, j'ai eu plus de... Et là, vraiment, c'est pas de la langue de bois ni de la brosse à reluire. J'ai plus d'attache à RTL en 2 ans qu'en 21 ans à l'équipe.
D'accord.
Donc, c'est pas non plus qu'un problème de... C'est aussi un problème de personne.
D'accord. Et dans ce métier,
qualité de personne.
Dans ce métier, les gens sont de qualité, justement, ou c'est comme dans tous les métiers, finalement, il y a des personnes très bien, et puis
Je peux pas trop savoir, parce que si tu veux, moi, que j'ai jamais fait que ça comme métier, donc je sais pas tellement. Je pense que c'est un métier où il y a évidemment beaucoup de jalousie, où celui pour qui ça marche pas trouve toujours qu'il a plus de talent que celui pour lequel ça marche. Donc voilà, mais cette jalousie, je l'ai vécue à l'équipe, et il faut le dire, moins par la suite. Mais c'est aussi un petit peu normal, puisque mon statut augmentait, donc voilà.
Alors pour vous, ça marche bien, parce qu'il y a le Canal Football Club, c'est là où...
Inch'Allah, ça va, merci.
il y a le cinéma également, vous tournez actuellement, un film qui va sortir dans les... Le 20 juillet.
Beurre sur la ville.
Dans les prochains mois, ouais. il y a la bande dessinée également, ouais. Tout va bien pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? C'est que vous avez du talent, beaucoup de talent, vous le pensez?
Oui, ouais, je pense que j'ai un talent fou et que je déchire ma race.
Ça vient d'où tout ça? Est-ce que c'est un parcours particulier?
Je pense que, bon, j'ai passé 21 ans à l'équipe, je pense que j'ai toujours été le même. Donc, ça veut dire que j'ai mis 21 ans à ce que ma personnalité plaise à une majorité de gens. Voilà.
Vous voulez dire que vous aviez la même personnalité lorsque vous êtes entré à l'équipe?
Complètement.
Ouh, ça a dû être difficile alors, hein?
Ça a été plus que difficile. Ça m'a valu une longue traversée du désert.
C'est vrai, il faut être patient. C'est la passion, ouais. Pour ouais. Tenir le coup dans ces
cas. C'est marrant parce que si tu me demandes, parmi mes traits de caractère, si la patience est une de mes qualités, je vais dire, oh là là, surtout pas, je suis impatient, je déteste attendre et tout. Et je m'aperçois qu'au niveau professionnel, la patience a été probablement... La patience et la résistance. La résistance à l'injustice, la résistance à la méchanceté. C'est certainement ça que j'ai le mieux réussi, ouais.
Ça, c'est parce que vous avez trouvé votre voie, tout simplement. que c'est ce
non, j'ai non il s'est trouvé qu'au bout de 8 ans de pigiste à l'équipe...
Parce que si on n'aime pas ça vraiment, on tient pas le coup.
Ah, mais j'aimais le foot, c'est le foot qui me permettait de tenir, ouais. Et au bout de 8 ans, Jérôme Bureau est revenu à l'équipe et le retour de Jérôme Bureau a fait basculer ma carrière dans le bon sens. Il m'a embauché, il a mis fin au délit de sale gueule dont j'étais victime. Et après, quand j'ai quitté l'équipe en 2005, Jérôme Bureau, qui était à M6, est venu me chercher pour faire 100% foot. Donc, c'est quelqu'un à qui je dois énormément sur le plan professionnel, c'est à Jérôme Bureau.
Quand vous dites délit de sale gueule, ça veut dire quoi, précisément?
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a pourri la vie pendant 8 ans à l'équipe.
D'accord.
Rien ne m'a été évité, aucune bassesse. Aucun...
Je n'ai pas cité de nom.
Oh bah, tout le monde le sait, c'est Denis Chaumier qui aujourd'hui est directeur de la rédaction de France Football. Je m'en cache pas, je l'ai déjà cité dans une interview. En même temps, c'est vraiment un nom que j'ai pas envie de citer plus que ça, quoi. Mais voilà. Il pouvait pas blairer ma gueule, on va schématiser, donc à partir de là, tout était permis. Y compris de vouloir me virer au bout de 8 ans.
Et la patience dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, qui a dû être...
Oui, la patience, puis tu développes des tas de choses. Un pouvoir de résistance, une certaine forme de haine aussi, il faut le dire.
Et... Ça fait avancer, ça, la haine?
Oui.
Ah ouais?
Oui. Ouais.
C'est quoi, cette volonté de prouver? De se prouver peut-être à soi-même également?
Non, parce que j'avais compris que je ne pouvais rien lui prouver, de toute façon. Rien de ce que je faisais ou de ce que je pourrais faire ne le ferait changer la vie. Voilà, j'espérais toujours que... Voilà. J'aime bien les films où c'est les gentils qui gagnent à la fin. Et puis voilà. Puis
le gentil, ça finit bien.
Et le gentil, c'est Jérôme Bureau qui est arrivé et tout a changé.
RTL Équipe, le café des sports.
Pour revenir au football, à la télé, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes une star aujourd'hui, Pierre Ménès, un journaliste. Je le sais, forcément, vous l'avez dit, mais pour vous, par exemple, c'est impossible de vous balader dans la rue. On vous arrête constamment.
C'est pas impossible.
On vous reconnaît, on vous arrête.
Je schématise en disant qu'il faut que j'évite les quartiers où il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs et beaucoup de flics.
C'est quand même le cas.
Parce que, statistiquement, les Noirs, les Arabes et les flics, il y a 90%, ils kiffent le foot.
Ah, oui.
Voilà. Ouais. Donc, il faut éviter ces quartiers-là. Par exemple, éviter les Champs-Élysées le samedi soir. Sinon, ouais, ça avait... Mais non, c'était pas impossible de vivre dans la rue, quoi. En plus, les gens qui m'arrêtent, ils sont tous. Ça fait 6 ans que je fais de la télé. Je compte pas l'équipe TV, mais ça fait 6 ans que je fais de la télé. J'ai dû avoir 3 personnes qui ont été désagréables.
Ah oui.
3.
D'accord.
Tu vois. Donc je les compte sur les doigts d'une main.
Alors ça, c'est tout à fait étonnant, vous savez pourquoi? Parce que j'allais dire, quand on a un tel tempérament comme vous,
ouais, mais
soit les gens vous aiment, soit vous détestent.
Oui, mais quand tu fais 1m83 et 130 kg...
Ah d'accord, on vous aime plutôt.
Bah, c'est-à-dire que quand on m'aime pas, bah, on s'arrête pas, quoi.
Vous avez des souvenirs comme ça d'un mec qui vous arrête dans la rue et ça se passe mal?
En boîte.
Ah oui, en boîte?
En boîte à la boule, ouais.
Ah ouais, d'accord. Bon, là, c'est la jalousie.
Il est mal tombé.
Ouais, il s'en souvient.
Il est mal tombé? Non, parce que je sais me tenir, mais je lui ai fait comprendre assez rapidement qu'il fallait qu'il arrête.
Vous êtes plutôt nerveux ou vous êtes du genre à réfléchir avant d'agir? Vous êtes un homme de tempérament, quand même, Pierre.
Ouais, mais j'ai 47 ans, donc maintenant ça va. Je sais que quoi qu'il arrive, si je tape le premier, j'aurai tort. C'est quelque chose que... Mais il y a des pertes, de temps en temps, il y a des baffes qui se perdent, ouais.
Il y a d'autres passions, à part le football. Ça m'intéresse, parce que quand on pense à Pierre Ménès, on pense au football, évidemment.
Plein de trucs. J'ai un grand projet en ce moment.
Ah, dites-moi, ça m'intéresse.
J'ai envie d'ouvrir une galerie d'art.
Ah, c'est formidable, ça. D'accord.
Parce que j'ai découvert, en achetant des chaussures, vous voyez que j'ai une vie absolument trépidante.
Racontez-nous.
J'ai sympathisé avec un jeune grec qui s'appelle Kyriakos Zakiris et qui est photographe animalier et qui fait des photos absolument invraisemblables. Il y a une photo d'un guépard qui est tout ensanglanté parce qu'il vient de bouffer un gnou ou quelque chose, quoi. Et voilà, et ce mec-là n'est absolument pas connu. Et ça me gonfle qu'il soit pas connu, quoi.
D'accord.
Donc l'idée... Déjà d'essayer de faire... Je suis à la recherche en fait d'un local pour l'instant.
Vous êtes un mécène alors?
Et c'est vrai...
Une sorte de mécène?
Non, c'est pas une question de mécénat. C'est une question que j'ai la chance de bien gagner ma vie, peut-être pouvoir me permettre ce genre d'investissement qui reste tout à fait raisonnable. C'est-à-dire, c'est payer un loyer et un salaire pour que quelqu'un tienne la chose. Donc ça pas non plus...
D'accord.
Voilà. En train de bâtir Cinecittà, non plus. Et puis j'ai une amie, Virginie Guillaume, d'M6, pour pas la citer, qui m'a dit... Mais, pourquoi tu fais pas une galerie d'art? C'est vrai que j'aime beaucoup la peinture, un peu moins la sculpture, mais enfin bon. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps.
Et puis là, c'est un coup de cœur également, peut-être.
C'est un coup de cœur, mais j'aime des tas de choses très, très. Enfin, j'aime l'opéra, j'aime Sacha Guitry, j'aime évidemment le cinéma. Enfin,
C'est dur de sortir du foot parfois. Vous dites pas, bon, quand on regarde des matchs les uns après les autres, c'est toujours un peu pareil. Hein. Il y a toujours 11 mecs sur le terrain, un ballon.
Ouais, et quand on a marre.
Par une victoire ou une défaite ou un match nul.
Voilà, quand on a marre, tu te regardes un match du Barça, puis ça te regonfle pour les 5 jours qui suivent. Quoi.
C'est vrai ça?
Ah oui, oui. Surtout là de. Je crois que j'ai beaucoup plus mal vécu la Coupe du Monde des Bleus que ce que j'ai à la fois bien voulu dire et surtout ce que j'ai cru. Ça m'a vraiment fait profondément mal. Profondément.
C'est. Vous savez à qui je pense quand vous me dites ça? Vous allez être surpris peut-être à Jean-Luc Delarue, qui prend comme ça toutes ces histoires et qui déclare que finalement il les prend dans la poire, pour reprendre ses mots. On ne sort pas intact d'une Coupe du Monde quand on aime le football et quand on aime le beau jeu.
Non, on ne sort pas intact. Moi, je me souviens de la fameuse journée du bus. Je suis en train de m'infuser un énième match de merde, parce qu'il faut quand même pas être. Faut bien être franc, c'était quand même pas la Coupe du Monde la plus exceptionnelle de l'histoire en termes de spectacle. Et je reçois un texto d'un copain qui est même pas journaliste, il me fait il y a Duverne et Evra qui ont failli se battre. Je dis, mais comment tu sais ça? Il me fait, c'est en direct à la télé. Donc je mets iTélé sur mon ordi. Et bon, même si c'est exagéré ce que je vais dire, j'ai vécu en direct le 11 septembre de l'équipe de France. C'est-à-dire un peu comme quand les tours s'effondrent. Et ça m'a fait marrer pendant 5-10 minutes. J'ai dit, ils sont vraiment trop cons. Surtout qu'il faut bien se souvenir que c'était le même jour que le téléfoot avec la sortie ridicule de Ribéry en claquette qui avait fait pleurer la France. Donc, il fait pleurer la France le midi, il fait la grève du bus l'après-midi. Enfin, il n'est pas le seul, mais... Et ça m'a fait marrer pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, le rire a fait place à l'agacement. Et je suis arrivé au Canal Football Club le soir, et c'est la seule émission que j'ai revisionnée après. Parce que je suis sorti, j'étais tellement sur la retenue, parce que toute l'émission, je me suis retenu pour les insulter. Moi, je pense toujours, par principe, que l'insulte est un peu la réponse des faibles. Mais à l'arrivée, ça rend vachement bien à l'antenne. C'est-à-dire que je pense que... Mais en tout cas, moi... Quand on me voyait à l'antenne, ça se voyait à la fois que je me retenais et que j'avais mal. Et ce qui m'a fait encore plus mal, c'est la réaction d'Aimé Jacquet. Parce que je fais partie des gens, même si j'étais à l'équipe en 98, j'étais absolument pas contre Aimé Jacquet. C'est même d'ailleurs, je n'ai d'ailleurs été écarté de la couverture de l'équipe de France en 98 parce que j'étais pas contre Aimé Jacquet. Et voir que cet homme qui a donné sa vie à la France du football, voir que ce mec-là, ils l'ont couvert de honte. Voir que le midi, le matin au petit déjeuner de France Afrique du Sud, il est au petit déj dans son hôtel et qu'il y a des journalistes anglais qui passent devant lui, qui fait ah tiens vous êtes pas en grève, c'est une vanne, c'est même une assez bonne vanne.
Mais les vannes s'accumulent.
Sauf qu'Aimé il l'a pris comme un coup de dague dans le cœur quoi. Ouais. Et ça t'as pas le droit. Je pense que ça t'as pas le droit.
Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ces années? Vous l'avez vous avez de l'expérience, vous connaissez le métier, mieux la vie également. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce monde du football tout au long de ces années? Est-ce que votre regard a changé? Est-ce qu'il est toujours le même?
Mais je pense que ça va te surprendre ce que je vais dire. Moi, j'ai une vraie tendresse pour les footballeurs. Alors qu'il y a des gens qui font un peu ce que je fais, enfin le même exercice que moi, l'analyse avec un peu de polémique, qui taille, et on sent qu'ils n'aiment pas les joueurs. Moi, j'aime les joueurs. Je pense que c'est... Je ne résume jamais ça à « mais ils sont millionnaires ». Je résume à ça, c'est un mec qui a 13, 14 ans. Il a peut-être pris le risque de sa vie d'être chômeur, RMiste... de foirer toutes ses études pour poursuivre un rêve. Et qu'il faut pas rêver quand tu arrives à jouer en Ligue 1 ou en équipe nationale, c'est que tu as fait des sacrifices. C'est-à-dire qu'à 17 ans, 20 ans, au lieu d'aller sortir draguer les nanas et de prendre une bonne meule avec tes potes, tu manges du poulet, du saumon avec de la purée et des crudités. Et voilà, moi j'ai une vraie tendresse pour les joueurs. J'ai beaucoup d'amis joueurs, beaucoup plus que ce que les gens veulent bien croire.
Il faut avoir faim pour être un très très grand joueur de football.
Ouais. Si t'as pas faim, tu t'en sors pas.
D'accord.
Si t'as pas faim, tu peux avoir tout le talent du monde. À un moment, ça coince. Exemple, Karim Benzema. Le potentiel technique et le bagage technique, j'y arrive. L'aisance, il a tout pour être un des 5 meilleurs attaquants du monde. Mais il a pas faim. Ou il n'a pas suffisamment faim, ou il a pas faim, ou il a faim trop tard.
C'est dur ça, parce que ça veut dire qu'il faut tout avoir finalement pour être un très grand joueur.
C'est dur, et c'est pour ça que les très grands joueurs, il faut bien comprendre quelque chose, filer 10 millions d'euros par an à Ronaldo, c'est pas un problème. Ça peut choquer en temps de crise, mais bien après quoi. Les discours moralisateurs à 2 balles. Ronaldo, Messi, tu peux leur filer des milliards, c'est pas cher. Ce qui est trop cher, c'est de payer des baltringues. C'est des joueurs en France qui gagnent plus de 100 000 euros qui ne devraient même pas en gagner un tiers.
On en a beaucoup des baltringues dans le championnat français.
Je serais méchant de dire ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est extrêmement pauvre sur le plan offensif. Que le championnat de France est un championnat extrêmement défensif, extrêmement bien organisé, où il est très difficile de marquer des buts. Donc un mec qui atteint les 15 buts en Ligue 1, il interpelle toujours des clubs européens. Si le mec il marque 15 buts en Ligue 1, il va être capable d'en marquer autant, voire même plus chez nous.
D'accord.
Donc on perd, tu sais, là, cette année, on fait les malins, mais regarde qui on a perdu. On a perdu Marwan Chamakh, on a perdu Atem Ben Arfa, on a perdu Mamadou Niang, on a perdu Issardia. Parfois, on ne parle jamais d'Issardia à Nancy, mais enfin, le mec, c'est 10-12 buts par an. Donc voilà, c'est un championnat. Je crois que j'avais compté des grands attaquants, enfin, des attaquants de France qui sont partis. On a perdu, je ne sais plus, comme 120 ou 130 buts. On ne les récupère pas.
Donc c'est ça le problème, en fait. C'est
si, tu les récupères parce que Moussa Sow, qui en avait mis 3 l'année dernière, a déjà mis 14.
Ouais.
Mais sinon, on les récupère pas, quoi.
Moi, j'ai envie de revenir parce que ça m'intéressait ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ces jeunes qui s'arrachent comme ça à leur milieu, à leur statut. Vous pensez de temps en temps à tous ces jeunes qui passent à côté, par contre, de leur carrière?
Oui, parce que j'en ai connu. J'avais le fils de la directrice de primaire de mon fils qui était au centre de formation de l'ESCAN et qui n'a pas franchi le cap parce qu'il était trop lent. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est dur. C'est dur.
Ils arrivent à rebondir derrière ou c'est une vie qui est...
Lui a réussi à rebondir parce qu'il vient d'une famille, une bonne famille, d'un bon niveau intellectuel, avec des études et qu'il a fait autre chose et qui, je crois qu'il est prof de PS aujourd'hui. Mais c'est dur, c'est très dur. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les surprises en Coupe de France ne sont plus vraiment des surprises, parce que tu tombes sur un club de CFA2 où t'as 5-6 mecs qui ont fait des centres de formation. Donc ces mecs qui ont le football pour être au niveau le jour un jour. Si ça tombe le bon jour, ils peuvent poser des problèmes à une équipe de Ligue 1.
J'ai envie de revenir à Pierre Ménès. Vous voyez où précisément dans, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, toujours sur les plateaux, derrière les micros?
Tu sais, dans 15 ans, alors je vais faire une fois, dans 15 ans, j'aurai 62 ans. J'ai envie de mourir.
62 ans?
Bah, j'en ai 47.
Ah, vous les faites pas, alors vraiment
non,
pas.
Non, hein. Bah, je sais bien, merci mon chéri. Mais ouais, non, je sais pas. Tu sais, depuis que je suis à M6, tous les ans, on me dit, alors qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Moi, je veux surtout, c'est garder ce que j'ai. Moi, depuis 6 ans, je suis comme Giroud, je vise le maintien. Et chaque année, il m'arrive un truc formidable en plus. Tu sais, il y a un joueur, Adil Rami, il dit tout le temps, je vis un conte de fées. Et moi, c'est pareil, quoi. Je travaille à Canal+, j'étais à RTL, tu vois. Enfin, j'étais à l'équipe, j'ai un pot phénoménal. J'ai énormément de chance.
Vous avez le sentiment que ça tient...
Une petite part de responsabilité dans ma chance. Oui, un peu provoqué, ma chance. Ouais. Mais, oh... Donc voilà, moi, ce qui me demande, c'est surtout continuer à Canal. Voilà.
C'était quoi l'enfance de Pierre Ménès?
Foot du tout.
Ouais.
Puisque moi, le foot, ça m'est tombé dessus à 13 ans. Donc l'enfance de Pierre Ménès, c'est surtout la passion du théâtre, Molière, les livres de la Comédie française, vraiment. Enfant unique.
Là, vous êtes très loin de votre personnage, cool, caricature de votre. Par exemple, vous êtes très
cool,
très loin
relâché.
de votre quand vous me parlez de Molière, de littérature. Je me dis, vous êtes très loin de votre marionnette, par exemple, au Guignol. Bon, c'est un peu l'idée puisque vous êtes.
Bah ouais, mais enfin bon, personne ne croit que Jean-Louis Borloo est un clodo qui dort dans des cartons. Personne ne croit ça. Donc voilà, c'est une caricature. Moi, ça me fait mourir de rire. Donc et mes enfants, je vous dis pas à quel point.
Faut avoir de l'humour, forcément.
Mais c'est marrant, mais jamais, mais pas une fois le truc des Guignols, je l'ai mal pris comme une attaque personnelle ou comme tu vois, jamais. J'ai toujours trouvé ça assez. C'est une caricature, mais j'ai trouvé ça bon enfant toujours quoi. Donc j'ai pas de problème avec ça.
Puis ça fait sourire. Avant tout, c'est comme ça qu'il faut le prendre.
Ça fait bien marrer, moi, quand il y a un truc, quand Chirac dit il a raison, patapouf, moi, ça me fait mourir de rire pendant 10 minutes.
Vous parliez de la crise tout à l'heure, ça m'intéresse quand on est comme ça dans une idée de carrière qui va crescendo, qu'on se fixe des objectifs. On la sent passer, la crise.
Bon,
on a conscience de ce qui se passe un petit peu autour dans la société, des gens qui ne sont pas des nantis, forcément. On en a conscience de ça où il y a un peu d'égoïsme là-dedans. On se dit, moi, j'ai ma route. Je sais où je vais et je veux y aller quoi qu'il arrive.
Bah oui, forcément. Enfin, de toute façon, quelque part, t'as pas le choix.
C'est vrai.
T'as pas le choix. Le truc, c'est que.
La question est un peu bête, je l'avoue.
Non, c'est pas... non, au contraire. Le truc, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, je gagne extrêmement bien ma vie. Donc, je paye énormément d'impôts. Ce qui me paraît assez logique. Et on parle beaucoup des niches fiscales. Et moi, je me demande, tu vois, par exemple, là, voilà, j'ai un projet dont je t'ai parlé. Mmh. Et j'en aurais d'autres, des projets, tu vois. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais faire des trucs. J'ai un ami de tailleur, j'aimerais bien l'aider à faire un showroom, tu vois. Sauf que j'ai pas des moyens illimités, je peux pas tout faire. Or, on me parle de trucs qui pourraient créer l'emploi. Et je trouve que ce qui manque, peut-être, c'est de permettre aux gens qui ont les moyens, qui payent beaucoup d'impôts, d'avoir une somme que l'on puisse sortir de l'impôt si elle pouvait générer de l'emploi. Alors, t'as des gens qui vont te dire, parce qu'on parlait de Mélenchon tout à l'heure, je sais pas si c'était là, mais t'en parles. Mélenchon, il va dire, moi je prends tout, j'ai entendu dire, je sais qu'il en dit des énormités, ce pauvre garçon, il va te dire, oui, parce que là, Bettencourt a une fondation, les gens ils sont pas là pour faire des fondations, ils sont là pour payer les impôts. Enfin, je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'on devrait inciter les gens qui ont des moyens, les gens qui payent beaucoup d'impôts, on devrait les inciter avec l'argent de leurs impôts, dire vous allez me payer moins d'impôts, mais vous allez créer de l'emploi. Moi, on me donnerait la possibilité de réduire mes impôts, de, par exemple, de 50%, en me disant, ouais, mais attention, il faut que vous créez
des emplois.
Ce que vous économisez en impôts, vous devez le créer en emploi.
Ouais.
J'adorerais ça.
Mais ça, c'est pas possible aujourd'hui. La politique, justement, vous parliez de Mélenchon.
Jamais, je suis beaucoup trop franc.
Ah oui. Mais ça vous intéresse, en tout cas.
Moi, Mélenchon, il me parle comme je l'entends parler à certains journalistes. Je me lève et je me barre, ou je me lève et je lui mets une droite.
Ah, ça passerait pas?
Ah, c'est impossible. Jamais personne ne m'a pas... J'ai entendu sur une radio concurrente parler à un journaliste, mais c'est intolérable. Mais je trouve à la fois intolérable de parler à quelqu'un comme ça, et je trouve intolérable de se laisser parler comme ça. J'ose même pas imaginer si c'était un mec d'extrême droite qui s'exprimait comme ça, contre des journalistes, le tollé que ça ferait. Visiblement, entre gens en France, on trouve toujours que l'extrême gauche, c'est plus sympathique que l'extrême droite. Alors que moi, dans les deux cas, il y a marqué extrême, et dans les deux cas, ça me fait froid dans le dos.
Tiens, par exemple, Marine Le Pen, on parle beaucoup là, du Front National, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la télévision, dans les journaux, évidemment.
Ça, c'est normal, puisque c'est normal.
Il y a une actualité qui est importante.
Il y a quand même une actualité très forte, puis en même temps, ils ont tout fait pour parler d'eux, ils ont fait un festival avec les journalistes.
Hein. Ça vous fait peur, ça, par exemple, à deux ans d'élection, cette effervescence, mais voilà, qu'on en parle beaucoup, et on peut se dire peut-être que ça va mener à autre chose, que ça peut changer un petit peu les mentalités. Est-ce que c'est dangereux?
Oui, c'est dangereux.
Tu sais, il y a deux écoles. Hein.
Je pense
qu'il faut en parler ou au contraire.
Moi, je pense. C'est marrant, genre, un peu ramener ça au foot. Je pense qu'on a commis avec Raymond Domenech, toute proportion gardée, les mêmes erreurs qu'avec Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'on interviewait le mec qui allait interviewer Raymond. C'était je vais me le faire, Domenech, je vais me le faire. Et tous les journalistes, pratiquement, que j'ai entendu interviewer Le Pen, Le Pen, je vais lui dire que c'est un gros raciste. Et je pense. Vraiment que c'est pas la même tonne. Laissez-le parler. Désarçonnez-le. Essayez de lui faire parler d'autre chose que l'immigration. Les juifs sont radins, les arabes sont des voleurs. Enfin, faites-lui parler de son programme économique. Écoutez la vacuité économique du programme du Front National. Je pense qu'on leur fait surtout cette indignation permanente et contre-productive. Je suis effaré du procès, de la couverture du procès de Zemmour. Il y avait des comptes rendus d'audience. Ouais. Mais attends, mais on rêve éveillé quand même. Alors que le mec, à l'arrivée, on va lui taper sur les dents. Ouh là là, c'est pas bien ce que t'as fait. Foutez-lui la paix. Qu'est-ce qu'on a. On a le droit. Enfin. Il m'est arrivé un truc, il n'y a pas d'argent. Je fais une émission sur France 4, présentée par Cyril Hanouna, qui donc, comme chacun sait, est juif. Hein.
Ouais,
et il me dit quel est pour toi le comique le plus drôle? Et je dis pour moi, le plus talentueux de tous, c'est Dieudonné. Malheureusement, il a basculé dans l'au-delà, il nous a quittés. Depuis qu'il a joué Dark Vador dans Astérix et Cléopâtre, il est vraiment tombé du côté obscur. Je me suis fait allumer par un site internet juif, mais un truc d'une violence. Que font les patrons de Canal+, et tout. Comme j'ai lu ça, j'ai envoyé un mail, le mec m'a répondu. J'ai envoyé un autre mail, du coup le mec a très bien compris. Ma position, dire que ce que j'avais dit avait été mal interprété, j'ai dit, il était le plus drôle. Il avait un talent. On peut être un gros con et avoir du talent.
Exactement.
Et il y a un truc. En plus, moi, m'accuser d'antisémitisme, sachant que mon grand-père a été le dernier juif arrêté par les Allemands à Tunis, ça me fait un petit peu sourire, si vous voulez. Donc, c'est toute l'ambiguïté de la France. C'est-à-dire, on peut rien dire aujourd'hui. On ne peut rien dire. On est.
Comment ça se fait, ça? Parce que moi.
Et en même temps, dès que tu dis quelque chose qui sort de l'ordinaire, ce qui est mon cas, ça marche. Donc, le curseur, il est super dur à manier, quoi. Mais bon, quand on m'interviewe, une fois sur deux, on me demande si ma liberté de parole et totale à Canal+. Comme on me disait, est-ce que votre liberté totale de parole est totale à M6 ?
Et c'est le cas ? Ça a été le cas ?
Bah, toujours. Jamais personne.
On vous a jamais dit, hop, 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 Pierre, attention là ?
Jamais. Ni à M6, ni à l'équipe TV, ni à Canal, ni à RTL.
Ouais, c'est important de le préciser, parce qu'on pourrait parfois imaginer le contraire. Voyez, on était parti pour discuter... Allez-y, Pierre, je vous en prie.
Pierre, encore une fois, je ne parle que de foot. Hein.
Ouais, mais quand là, on a parlé d'autre chose.
Quand je vois ce qui se passe, y compris la Tunisie, qui n'est pas du tout un pays que je connais, j'y étais qu'une fois dans ma vie, mais qui est... Quel pays de toute la famille de ma mère. Ma mère est née à Tunis, elle a quitté la Tunisie à 18 ans. Quand j'étais allé avec l'équipe de France à Tunis en 2002, en août 2002, j'avais retrouvé la maison de ma mère et de mon grand-père, qui est devenue aujourd'hui la maison de l'Association de la Défense du Consommateur. Et voilà, donc forcément, sans connaître le pays, t'es touché quand il arrive des choses comme ça. Puis t'es touché, puis c'est un événement énorme, quoi. Donc c'est... c'est quand même autrement plus important de savoir si la main d'Heinze hier soir méritait pas ou pas. Quoi.
Là, on est en plein dans l'histoire, en tout
voilà.
cas. Là, c'est
voilà.
C'est une certitude. Voyez, on voulait discuter quelques minutes. Et puis,
pas un bouge-vous ?
Ah, si, on va le faire, vous inquiétez
ça
pas.
Ça m'amuse bien.
Ah oui, on va terminer. Effectivement, c'est une tradition. On termine cette émission.
C'est un gros quart d'heure.
Ah oui, c'est un gros quart d'heure. Mais c'est tout à fait intéressant de discuter avec vous et ça me fait bien plaisir. Et je suis surtout content qu'on ait pu parler d'autre chose que de football. Le wouzou, le principe, il est simple. Je vous donne quelques noms de personnalités. Et du tac au tac, Pierre Ménès, vous me dites ce que vous en pensez. Mais là-dessus, pas de langue de bois. Inutile de le préciser, je vous fais confiance. Florent Malouda.
Je le connais pas. Je le connais pas. J'apprécie pas le joueur. J'ai pas apprécié le joueur à une époque où il était titulaire, indiscutable, intouchable en équipe de France. Et je trouvais que ça se justifiait pas. Voilà. En même temps, la charge que j'ai pu faire sur lui et sur M6 en 2008... a grandement contribué à ma notoriété, donc même, je lui suis donc extrêmement reconnaissant pour ça, même si je conçois très bien que lui me déteste.
Christian Olivier.
Bah, j'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. C'est voilà. J'oublierai jamais la manière dont il s'est comporté avec moi au moment de mon départ et pendant 2 ans ici.
Thierry Henry.
Jamais j'aurais pensé que j'aurais besoin de défendre à ce point le mec qui est sans la moindre contestation possible. Le meilleur attaquant français de tous les temps. Enfin, il a tout gagné et il a tous les records. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Joueur du siècle, Arsenal. Meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Meilleur buteur de l'histoire en équipe de France. Meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe d'Europe.
Il n'a jamais été ballon d'or ?
Non, il a fait une fois deuxième. Trois fois troisième. Il était, je crois, 5 fois dans les 5 premiers.
Bien placé, c'est vrai.
Tu vois, champion d'Europe, champion du monde, gagné la Ligue des Champions, il a fait une finale. Oh là là.
Autre personnalité, Pierre Salviac.
Ah oui, on défend un cran quand même, là. Pourquoi Pierre Salviac ?
Je sais pas, j'ai pensé à Pierre Salviac, je voulais avoir votre avis sur ça.
C'est un spécialiste de rugby, pas moi, Dieu sait que non.
Il parle de temps en temps de football ?
Ouais, il ferait mieux de s'abstenir. J'ai souvenir d'une émission là-bas, dans le grand studio, le lendemain de France-Argentine à Marseille, et j'avais vraiment fini l'émission extrêmement agacé. Parce que voilà, monter sur la chaise et asséner les grands trucs... c'est bien, mais il faut quand même un peu s'y connaître, quoi. Donc, sur le rugby, j'ai rien à dire. Parce que j'y connais rien, puis ça m'intéresse pas en plus. Sur le foot, il faut qu'il laisse ça à quelqu'un d'autre.
Nicolas Anelka.
Une immense déception. C'est quelqu'un que j'ai énormément défendu, notamment quand j'étais à l'équipe. Il avait giflé un journaliste et j'avais vraiment tout fait pour arranger les bidons. Entre les deux, pour que voilà, qu'il n'y ait pas de dépôt de plainte, enfin que je trouvais que dans les deux cas, j'avais une énorme. Là aussi, c'est dans le. Il y a peu de joueurs qui m'ont donné le frisson quand je les voyais prendre la balle. Il y a Ronaldo, le vrai, enfin le vrai, le Brésilien,
oui.
Et Nico. Nico, quand il y a quelque chose au début de sa carrière, je pense qu'il est passé à côté de sa carrière et il m'a terriblement déçu durant cette période de la Coupe du Monde parce que qu'on le veuille ou non. Le seul sélectionneur qu'il a sélectionné pour 2 phases de finale d'affilée, c'est Raymond Domenech. Le seul sélectionneur qu'il a sélectionné pour une Coupe du Monde, c'est Raymond Domenech. Et le seul sélectionneur qui lui a filé les clés, qu'il a mis titulaire 5 matchs d'affilée, c'est Raymond Domenech.
Et ça, il l'a oublié?
C'est-à-dire que j'étais quand même le seul 9,5 de l'histoire du football qui s'estime qu'il n'a pas joué 9. Je trouve que c'est un peu facile que ce soit toujours de la faute des autres.
Roselyne Bachelot.
Formidable hommage. C'est la personne qui m'a fait le plus rire pendant cette Coupe du Monde. son fameux « plus rien ne sera jamais comme avant » restera dans l'histoire. C'est, et en même temps, c'est un peu angoissant quand on voit des politiques qui connaissent rien. Enfin, des politiques qui ont dit des conneries au moment du barrage et de la main de Titi contre l'Irlande, là, il y en a eu quelques-uns. Là. Et pourtant, des politiques qui kiffent le foot, qui s'y intéressent vraiment, type François Baroin, François Hollande, il y en a. Roselyne Bachelot, faut... bon sang, Ramayad n'était pas beaucoup plus compétente.
Hein. Chantal Jouanneau.
Elle est déjà au niveau du foot, elle est déjà très très mal partie. Je trouvais sa déclaration sur le PSG, l'argent, c'est quand même
Qatar.
Je trouvais ça absolument scandaleux parce que pour autant que je sache, en France, on n'est quand même pas gêné pour leur vendre des armes au Qatar. On prend leur pognon pour leur vendre des armes, mais on peut pas prendre leur pognon s'ils veulent investir dans le club de foot. Je trouve ça insensé.
Le débat, la polémique autour de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar.
Parce que la Coupe du Monde du pognon, quoi.
Ouais.
Tout le monde s'est gavé, c'est formidable. Je suis sûr qu'à l'arrivée, je faisais la réflexion, je sais plus ce que vous voyez. Oui, je voyais des images au Qatar. Tu sais, après, une fois que t'es à la télé, là, rien ne ressemble plus à un terrain de foot qu'à un autre terrain de foot. Ils vont faire forcément des stades sublimes. Après, bon, c'est bien gentil de faire des stades climatisés, mais enfin, faut pas oublier qu'il fera 45 ou 50 degrés dehors.
Si on peut déplacer la Coupe du Monde, hein.
Ouais.
Vous sentez ce coup-là, là?
Bah, ce qui est extraordinaire, c'est de désigner le pays et de dire après, ah oui, dis donc, merde, c'est vrai qu'il va faire chaud.
On
va peut-être déplacer la... Voilà.
Pierre Ménès, vous en pensez quoi de ce mec?
J'ai beaucoup de plaisir à vivre avec lui. Il me fait bien marrer. Je crois que je suis le premier spectateur de mes conneries. Même si je suis quelqu'un d'excessivement mauvais public, je suis fier de lui quand même, quoi. C'était pas gagné tout ça, quoi. Donc quand je vois où... là où j'en suis, ouais, je suis fier de lui. Et puis j'espère que ça va continuer pour lui encore un peu longtemps comme ça.
Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, à Pierre Ménès, que ça continue comme ça.
Sauf si je meurs d'un terme de tout horrible dans les secondes qui viennent.
Pour prendre soin de vous, Pierre Ménès, c'est tout ce qu'on
je
vous souhaite.
Je prends soin de moi. Pour un homme, je vais voir les médecins, je prends mes médocs, je suis formidable.
C'est bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans ce Café des Sports. Ça m'a fait particulièrement plaisir de pouvoir discuter avec vous. Vous êtes le bienvenu, évidemment, dans la maison, mais ça vous le sait, et plus particulièrement sur RTL, l'équipe, et dans ce Café des Sports. Vous revenez quand vous le souhaitez. On voulait parler. Un petit mot tout de même sur la bande dessinée, ça c'est important également. Il y a le cinéma, mais on en a déjà parlé, sortie du film au mois de juillet. Un mot en 10 secondes sur la BD là, qui va sortir très prochainement également.
C'est les gens qui m'ont contacté. On dit voilà, on a fait une BD sur les supporters, on a fait des planches avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur ai dit ça me fait marrer, il faut juste m'agrandir parce que le dessinateur ne me connaissant pas, il avait dessiné un petit gros. Or je fais quand même 1m83, donc j'ai demandé de rallonger un peu l'asperge. Et je trouve que c'est une BD, moi qui ne suis pas très client de BD, je trouve que c'est vraiment une BD marrante, il y a des bons gags. Et puis, comme je le disais déjà tout à l'heure, les femmes ont une vraie place dans cette BD. Ce n'est pas du tout quelque chose d'excluant. Les femmes, elles ont presque le pouvoir dans cette BD, donc je trouve que c'est une bonne idée.
C'est un hommage également rendu à Pierre Ménès, mais également aux femmes. Merci beaucoup, Pierre Ménès.
Merci, Emmanuel.
De nous avoir accompagnés tout au long de cette
émission.
C'est
un bon quart d'heure, hein.
Ouais, c'est un bon quart d'heure, effectivement. Beaucoup de plaisir. On vous retrouve quand vous le souhaitez, en tout cas, sur le www.rtl-équipe.fr.
Débattez vous aussi avec les journalistes de RTL L'Équipe via le mur Facebook RTL L'Équipe ou par mail à contact@rtl-équipe.fr.
Allez, vous l'avez compris, évidemment, notre invité Pierre Ménès était présent en studio il y a quelques mois. À présent, on souhaitait vous faire écouter ce passage. Pierre Ménès, que l'on connaît bien sur RTL, présent évidemment au Canal Football Club. On le retrouvera évidemment la saison prochaine sur Canal+. Un mot du programme à venir, 14h passées de 3 minutes avec les débats. D'ici quelques minutes, on va parler football, bien évidemment, avec ce soir le match Biélorussie-France, coup d'envoi 20h50. Je rappelle que si la France gagne cette rencontre, ce n'est pas encore gagné, tout de même pour le ticket qualificatif pour l'Euro 2012. On rappelle le score au match aller, 1-0 en faveur donc de la Biélorussie face à la France. On va parler tennis également avec l'arrivée. Je contrôle évidemment, puisque j'ai l'écran juste sous les yeux, l'arrivée sur les courts actuellement de Rafael Nadal, opposé, on le rappelle, au Britannique Andy Murray. Après les femmes, place aux hommes. Le tournoi masculin, les demi-finales aujourd'hui, 2 matchs à suivre évidemment sur le www.rtl-l'équipe.fr. Rafael Nadal, l'Espagnol, opposé à Andy Murray, le Britannique. Enfin, Roger Federer également devra se défaire du numéro 2 mondial Novak Djokovic. Voilà pour le programme à venir. Je vous rappelle qu'on va retrouver d'ici quelques minutes nos envoyés spéciaux, bien sûr, depuis la porte d'Auteuil pour faire le point sur Roland-Garros avec les joueurs qui vont donc se mettre en place pour l'échauffement. Le début du match à venir d'ici quelques minutes. Et puis, je vais accueillir nos journalistes de la rédaction de RTL Équipe qui sont présents à présent.
Ah oui, à présent. Tout à fait présent.
Raphaël Sebaoun, bonjour.
Présent.
Allez, Salim Mangali est avec nous également. Salut Salim.
Salut Emmanuel, bonjour à tous.
Tout va bien, messieurs ?
Très bien. Il fait un soleil magnifique.
Ah, c'est vrai qu'il fait très beau. Vous êtes arrivé avec les lunettes de soleil.
Écoutez, je suis allé faire un petit tour dehors. Là,
pourquoi
un
pas
un petit peu m'aérer.
Vous avez raison, profitez du soleil. Le tennis au programme et on va débuter tout de même le football avant de retrouver Clément Grèze, porte d'Auteuil. Le football ce soir, Biélorussie, France, match qualificatif pour l'Euro 2012. C'est le sixième match, on le rappelle, qualificatif des Bleus en cas de victoire. Ce n'est pas encore gagné, hein, bien sûr, même si la France s'impose ce soir face à la Biélorussie. Elle fait quand même un grand pas vers la qualification, Salim.
Oui, puisqu'en cas de victoire ce soir, la France aurait 7 points d'avance sur ses Biélorusses. Mais attention, après, il resterait encore 4 rencontres. 4 rencontres, ça veut dire 12 points potentiels à distribuer. Donc, imaginons à l'instant que l'équipe de France venait à perdre ses 4 derniers matchs et que dans le même temps, la Biélorussie venait à s'imposer. Eh bien, les Biélorusses passeraient devant la France. Mais forcément, avec 7 unités d'avance à 4 journées de la fin, ça resterait évidemment une très bonne avance pour cette équipe de Laurent Blanc. Il y a pas mal de symboles quand même dans cette rencontre ce soir, notamment encore une fois effacer, on va dire, ce score du match aller, ce 1-0 qui avait marqué quand même les esprits. C'était le premier match officiel, on va dire, de Laurent Blanc.
Ah oui, parce que moi je me souviens des réactions avant le match. Ça va être facile, on va s'imposer facilement et au final on s'est fait cartonner par les Biélorusses.
Après, le parcours de l'équipe de France a bien prouvé que c'était une erreur de parcours, un incident.
Non mais regarde le parcours.
On a perdu 1-0.
Si. Point barre.
Mais c'était le début.
Voilà, c'était début, l'équipe de France, en plus c'était des nouveaux joueurs pour Laurent Blanc, puisqu'on se rappelle lors de la rencontre précédente, Laurent Blanc avait été obligé de punir l'ensemble des joueurs, en tout cas la fédération avait puni l'ensemble des joueurs qui avaient participé à la Coupe du Monde et notamment au scandale de Naïsna. Résultat, tous les joueurs qui auraient pu être sélectionnés par Laurent Blanc n'avaient pas pu être lors du match face à la Norvège. Résultat, il avait pris des joueurs qu'il ne connaissait quasiment pas lors de cette rencontre face aux Biélorusses et forcément, le temps de mettre en place un système de jeu, le temps tout simplement de mettre des affinités en place. Il y avait eu ce couac qui était un vrai couac évidemment, mais après on a vu effectivement, et Raphaël l'a bien précisé, le parcours suivant a précisé qu'il y avait autre chose.
On fait juste une petite coupure parce qu'on va retrouver Roland Garros et il me semble que c'est Eric Silvestro, car ils sont en bleu, hein, tous les deux joueurs, Raphaël Nadal et Andy Murray, et ils arrivent à présent sur le court, Eric.
Exactement, Manu, et pourtant ils ne sont pas chez le même équipementier, mais le bleu est à la mode cette année.
Alors Eric, j'ai juste une question à vous poser pour débuter.
Dites-moi tout.
Parce qu'on a vu, j'imagine que vous les avez vus évidemment, les deux joueurs, les uns à côté de l'un à côté de l'autre, avec l'arbitre également qui a demandé à Andy Murray de retirer, alors peut-être un pins, je suis pas sûr, sur sa casquette. Est-ce que vous avez vu cette
j'avoue que je n'ai pas fait attention.
Cette scène assez cocasse. Il lui a dit t'as quelque chose sur ta casquette, peut-être.
C'est peut-être une question de sponsoring.
Un pins ou je ne sais quoi, mais en tout cas l'arbitre n'était pas tout à fait d'accord avec.
Écoutez, je pense que la
tenue vestimentaire d'Andy Murray.
Ça l'empêchera pas de frapper des coups droits et des revers.
Bon, là on est d'accord.
Peut-être qu'il y avait un petit message publicitaire. Vous savez, on n'est pas à Wimbledon ici où il faut être tout en de blanc vêtu. Mais voilà, il y avait peut-être un petit truc, je sais pas. Non, je vous avoue que j'ai pas vu
d'accord,
du tout.
Bon.
J'ai essayé de me concentrer, de voir sur le. Parce que nous, en plus, on est de dos, vous savez. Enfin,
comment ça ?
Les joueurs sont assis dos par rapport. Ils nous tournent le dos, en fait, par rapport aux cabines. C'est-à-dire que les cabines sont placées derrière les joueurs. Donc, quand ils sont assis et qu'ils discutent ou quoi, et qu'ils sont en train de s'installer, nous les voyons que de dos.
Je comprends.
Voilà. Mais en tout cas, vous savez pourquoi on a commencé à 14h cette année et non pas à 13h, les
demi-finales
masculines ?
Dites-nous.
À votre avis.
Alors attendez, 14h plutôt que pour
déjeuner. D'habitude, c'était à 13h.
Oui, bien sûr, pour prendre le temps de déjeuner un petit peu davantage, non ?
Exactement, parce qu'il s'était rendu compte que dans les années précédentes, eh bien, quand les matchs débutaient à 13h, les demi-finales, la première demi-finale, eh bien, les tribunes étaient encore très vides, très peu garnies, parce qu'il y avait beaucoup de gens, notamment dans les loges, qui étaient en train de finir de déjeuner. Donc maintenant, c'est carrément les gens qui dînent, qui déjeunent dans les loges.
Non,
ça,
il est furieux, Clément.
Il peut manger tranquillement.
Non, mais ce qui est scandaleux, Manu, ce qui est scandaleux, c'est que, imaginez que Murray-Nadal soit un énorme match en 5-7 de 4 heures. Bon, ça veut dire que Roger Federer et Novak Djokovic vont attaquer leur demi-finale à 18h30 avec une possibilité de ne pas la finir à cause de la nuit.
Et je trouve ça super.
Non, c'est nul.
Eh ben je trouve ça super.
Mais là, mais au niveau de l'équité, effectivement, c'est
Au niveau de l'équité,
il faut penser aux gens qui travaillent. Alors aujourd'hui, c'est férié.
Ils travaillent pas, ils sont en train de se boire du champagne comme des gorées dans les loges.
Mais arrêtez de penser, les spectateurs de Roland Garros, ce n'est pas uniquement les gens qui sont invités VIP à boire du champagne. Il y a aussi des gens qui sortent du boulot et qui vont tout simplement porter d'Auteuil, non ?
Non, je crois que globalement, vous faites une grosse erreur là, parce que en l'occurrence, les gens qui sont pas sur le cours Philippe Chatrier en ce moment sont dans tous les restaurants qui sont un petit peu plus loin dans le village, notamment de Roland Garros, c'est-à-dire dans un village où il y a
un sport de bourgeois,
de VIP. Ah bah écoutez, en tout cas le public, le public des loges est principalement effectivement un public de bourgeois, et ce qui fait que pour l'instant, eh bien, on en a d'ailleurs le constat sous nos yeux, c'est-à-dire que tout le deuxième étage de Roland Garros est plein un craqué de supporters qui ont payé leur place pour venir assister à ces demi-finales, et en revanche tout le bas,
de toute façon même à 14h ils n'auront pas fini de déjeuner, donc
le tiers état est là, mais la bourgeoisie ne l'est pas. Si vous
c'est insupportable. Bon, l'avantage c'est que probablement, on le souhaite en tout cas pour eux, ça ne va pas durer 5 heures, parce que si ça dure 5 heures aujourd'hui, je peux vous dire qu'il fait 30 degrés, qu'il y a un soleil de plomb et que ça va être dur physiquement.
Il y a beaucoup de vent également.
Ouais, seul petit avantage, voilà, c'est qu'il y a un peu de fraîcheur qui est apportée par un vent.
Je peux te dire que la fraîcheur, quand tu es à 3-7, après 2 heures de jeu, tu tapes comme un bourrin sur le central, le vent, tu le sens plus. Hein, tu as l'impression que tu es dans un four à chaleur.
C'est déjà un petit peu mieux.
Ça, c'est vous, Eric, mais ce sont tout de même des athlètes de haut niveau, hein, je vous le rappelle. Hein.
Oui, mais quand même.
Et Eric n'est pas un athlète de haut niveau. C'est
je n'ai pas dit ça.
Vous l'avez pensé très fort. Encore, vous n'avez pas tort. On ne peut pas vous donner complètement tort.
Ce que je vous propose, vous pouvez évidemment rester avec nous. On avait débuté avec le football et ce fameux Biélorussie-France. On va revenir au tennis, bien sûr. Hein. On va parler, pourquoi pas, également des demi-finales dames, même si aujourd'hui sont celles du tournoi masculin qui nous intéresse, bien évidemment. Biélorussie-France, coup d'envoi 20h50 ce soir. Match à enjeu tout de même, on le rappelle, parce qu'il y a une qualification à aller chercher pour l'Euro 2012, même si c'est plutôt bien parti. On rappelle juste, Raphaël Sebaoun, un point sur les positions du groupe 1. La France qui occupe la première position, 12 points. Deuxième position, justement, pour la Biélorussie avec 8 points.
Oui, mais c'est pas la Biélorussie qui va terminer deuxième du groupe. Hein. Il y a d'autres équipes qui sont juste derrière. On pense notamment à la Bosnie. Alors, la Bosnie, c'est toujours cette histoire de fédération qui est un petit peu embarrassante. Non, l'Albanie, il y a Kloriksana qui joue au ballon là-bas. Arrêtez avec l'Albanie. On va avoir une double confrontation. Non, mais la qualification, elle est déjà quasiment pliée. Je veux dire, si ce soir, la France prend les 3 points, ce sera réglé. Faut pas s'attendre ce soir à un grand match de football. Ça va être un match où les mecs en face, ils vont jouer à 10 derrière, ils vont attendre les Français, il va falloir trouver à un moment donné la brèche, être efficace devant le but. Ce soir, c'est le 1-0, 2-0 max, l'affaire est pliée.
Surtout que par rapport notamment au match aller où donc ces Biélorusses aussi avaient joué un peu de cette manière-là, en essayant au final d'obtenir et de concrétiser leurs rares occasions, cette équipe de Biélorussie n'aura pas beaucoup de joueurs titulaires habituels, en tout cas qui seront présents, puisqu'il y a énormément de blessés, énormément de forfaits dans cette équipe biélorusse. Bref, on aura énormément de remplaçants, en tout cas de second couteau dans cette équipe.
Alors, est-ce qu'on peut faire un point justement sur la composition des joueurs en marinière, puisqu'on rappelle qu'ils vont porter leur fameuse marinière ce soir.
Avec la compo, on la connaît, hein, Hugo Lloris dans les buts, Abidal préféré à Evra côté gauche, avec la charnière Rami Sakho. Ça sera intéressant de voir Mamadou Sakho qui remplace donc Philippe Mexès, hein, qui est blessé. Bakary Sagna à droite, deux récupérateurs, Alou Diarra qui sera le capitaine, hein, de l'équipe de France. Confiance maintenue par Laurent Blanc à Alou Diarra. Abou Diaby qui va jouer un petit peu plus, hein. C'est vrai qu'il avait été blessé lors des précédentes sélections.
Mais là, il y a quand même une mini surprise, on va dire, parce que vous l'avez dit, c'est quand même un joueur relativement blessé, en tout cas régulièrement blessé, et surtout pas de Yann Mvila.
Oui, mais Abou Diaby est un homme de base comme Yann Mvila en équipe de France. Et finalement, quand on regarde un petit peu le début de la préparation, en tout cas des qualifications de l'équipe de France, en général, les trois récupérateurs qui ont le plus joué sont Abou Diaby, Alou Diarra et Yann Mvila. Mm-hmm. Ce sont trois joueurs pour deux postes. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et Abou Diaby avait peut-être un petit peu moins de temps de jeu ces derniers mois parce que blessé. Donc, on va peut-être un petit peu faire jouer Abou Diaby, redonner un petit peu de temps de jeu. Et puis, Yann Mvila, je pense que, voilà, on sait qu'il n'a pas fait une deuxième partie de saison. Mais comme à Abou Diaby, hein, finalement. Mais je pense que c'est plus pour relancer Abou Diaby que Laurent Blanc le met titulaire. Et puis, pour le reste, alors, l'animation offensive, Malouda qui devrait jouer à gauche, Franck Ribéry qui devrait évoluer au poste de milieu droit, numéro 10, Samir Nasri, et puis en pointe Karim Benzema. Et là, il n'y a pas trop de surprises. On aurait peut-être pu peut-être tester, retester Franck Ribéry à gauche, son poste de prédilection. Malouda, on le voit depuis quelques matchs en équipe de France, n'est pas franchement convaincant. On aurait pu mettre à droite, par exemple, je ne sais pas, un Mathieu Valbuena ou un Jérémy Ménez, un jeune.
La fraîcheur est un facteur important dans ce genre de rencontre. On rappelle qu'on est en fin de championnat. Demain, c'est un peu les vacances hein, pour les joueurs de l'équipe de France, très certainement également pour les joueurs de la Biélorussie. Le facteur fraîcheur, c'est important ça dans ce genre de rencontre.
Vacances, oui et non. Évidemment, sur le papier, au niveau du calendrier, forcément. Sauf que Laurent Blanc a été clair et l'a martelé depuis plusieurs jours, depuis le regroupement de cette équipe de France à Clairefontaine. Il a très clairement fait comprendre à ses joueurs, ce sont trois matchs importants, même s'il y a évidemment deux matchs amicaux derrière Pologne et Ukraine. Et ce sont tous sauf des vacances justement pour lors de ces trois rencontres. Donc dans l'esprit, on n'aura pas des joueurs qui seront justement en train déjà de penser à autre chose.
Il y a quand même des joueurs qui jouent leur avenir en équipe de France, qui peuvent prétendre un petit peu bousculer la hiérarchie. Mamadou Sakho le premier, qui a un gros coup à jouer au poste de défenseur central. Lui, après ce match face à la Biélorussie, il sait qu'il va avoir deux autres sélections où il va pouvoir continuer à prouver que c'est un très très grand, un futur même très grand défenseur central. La hiérarchie, pareil, au poste de milieu récupérateur, il y aura des choses à voir. Et puis, il y a les petits jeunes qui poussent derrière. Alors, aujourd'hui, c'est Ribéry et Malouda qui jouent sur les côtés. Mais Laurent Blanc, on va l'imaginer, lors du stage, va faire tourner son effectif face à la Pologne et l'Ukraine. Donc, il y a des joueurs qui savent qu'ils ont des choses à prouver, des points à marquer pendant ces trois matchs de l'équipe de France.
Allez, Biélorussie-France, coup d'envoi à 20h50. Match à suivre, évidemment, ce soir sur le www.rtl-l'équipe.fr. Je rappelle également le calendrier de l'équipe de France avec l'Ukraine le 6 juin, donc en l'occurrence hein, Ukraine-France, coup d'envoi 21h à Donetsk, et enfin jeudi, donc 9 juin, Pologne-France, 21h, coup d'envoi à Varsovie. Donc voilà pour le programme, le calendrier de l'équipe de France. Si vous le voulez bien, 14h passées de 16 minutes, on va passer au tennis, on a parlé football et on va s'intéresser évidemment à ces demi-finales du tournoi masculin et on va accueillir une nouvelle fois donc Eric Silvestro. Je sais que Clément Grèze nous écoute également. Ça y est, c'est la fin de l'échauffement, hein, messieurs.
C'est la fin de l'échauffement, effectivement. Alors Eric s'est absenté quelques instants pour nous trouver de quoi nous désaltérer. Julien Varlet va pas tarder à faire son apparition puisque vous l'entendez derrière moi, il est actuellement sur le court Suzanne Lenglen en train d'annoncer la demi-finale du tableau.
C'est
junior.
Lui qui fait la présentation des matchs.
Et oui, sur le Suzanne Lenglen, il a remplacé dans ses fonctions un certain Benoît Mélin qui a été appelé à d'autres
fonctions,
effectivement, merci beaucoup, notamment chez d'autres médias. Caroline Garcia qui fait son apparition, voilà, sur le court Suzanne Lenglen. C'est pas elle qu'on va suivre, même si on vous donnera évidemment régulièrement de ces nouvelles. Nous, on va se pencher sur le début de cette rencontre entre Raphaël Nadal et Andy Murray, les deux hommes qui ont effectivement fini l'échauffement, et c'est Andy Murray qui sera le premier à servir dans cette rencontre.
Alors qu'est-ce qu'on peut attendre, Clément, de cette rencontre? Du spectacle, évidemment, ça c'est une certitude. On rappelle que Raphaël Nadal a eu des débuts assez compliqués, mais il a tout de même montré en quart de finale qu'il allait mieux, beaucoup mieux, Rafa Nadal. Les débuts de match, le début de ce match, bien sûr, les premiers points vont être véritablement importants.
Oui, ils vont être capitaux même dans la perspective de la suite de cette rencontre. Raphaël Nadal qui reste sur une victoire face à Andy Murray, on s'en souvient, c'était à l'occasion du match à Monte Carlo pour les demi-finales de ce tournoi, à l'issue d'une petite partie de bluff de Andy Murray qui est coutumier du fait. On le rappelle, hein, ce coup-ci sur le rocher monégasque, eh bien, il faisait mine de souffrir terriblement de l'épaule. Alors, il devait avoir mal. Seul problème, c'est que eh bien, la suite de la rencontre a prouvé qu'il pouvait très bien jouer, voire très très bien jouer, puisqu'il a poussé Raphaël Nadal dans ses retranchements en servant notamment quelques cachous en première balle, alors qu'il semblait 10 minutes avant le début de la rencontre à deux doigts de déclarer forfait. Donc, il faut se méfier de ce Andy Murray qui n'a pas connu un début de tournoi particulièrement impressionnant, puisqu'il a souffert tout au long de ce tournoi pour venir jusqu'à ce stade des demi-finales, notamment face à Victor Troicki. Il était mené deux manches à rien contre le Serbe. Face à Juan Ignacio Chela à l'occasion des quarts de finale, un tour a priori facile, eh bien, il a souffert également, même s'il s'est qualifié en 3-7. Bref, un Andy Murray qui n'est pas forcément convaincant, qui pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Roland-Garros, et qui a face à lui un mur, le mur espagnol, le mur du numéro 1 mondial, qui a connu lui aussi un début de tournoi compliqué, mais qui a retrouvé sans doute de la confiance à l'occasion de son quart de finale remporté face à Robin Soberling.
Salut Mangali.
Juste pour évoquer, alors là, on sort un petit peu des cours de tennis. Autour d'Andy Murray, alors je vous pose la question, Clément, et je vais faire aussi une petite observation parce que en Angleterre, le tournoi de Roland Garros est à peine regardé pour le coup, puisque
ça c'est intéressant.
Dites-nous. Ouais, le tournoi, il est absolument pas regardé. En France, il est diffusé notamment chez nos confrères de France Télévisions, d'Eurosport, d'Orange également. Et en Angleterre, il n'est diffusé que sur Eurosport 2. Voilà, faut en plus avoir la chaîne annexe pour le coup.
Je pense que la demi-finale sera retransmise.
Eh ben non, justement, cette année non plus. Même cette demi-finale, Nadal-Murray n'est absolument pas diffusée en clair. Elle n'est diffusée donc que sur Eurosport 2 et sur le site internet de la BBC. C'est dire le désintérêt qu'ont les Anglais pour Roland Garros.
Et comment ça,
la seule chose qu'ils regardent, c'est Wimbledon. Quoi.
Ça veut dire qu'ils n'aiment pas le sport. Quoi.
Non, ça veut dire qu'ils préfèrent regarder Wimbledon que Roland Garros.
Mais non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils aiment le sport que quand ça se passe chez eux. Quoi. Donc, ils n'aiment pas le sport globalement.
Et pourquoi pas, tiens ?
Parce que c'est un tournoi du Grand Chelem.
Ah oui, mais vous levez-vous à 3h du matin pour regarder l'Open d'Australie?
Mais qu'est-ce que ça a à voir? Les Anglais, ça se passe à la même heure que chez eux, là. Roland-Garros, on est sur le même fuseau.
Bah, là, c'est l'heure du déjeuner. Là. Mais je veux dire, au prétexte Angleterre. De l'événement, vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier pour absolument profiter du spectacle.
Et puis, la plupart des matchs de l'Open d'Australie sont diffusés le matin, de 8h à midi.
Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que, mis à part Andy Murray, aujourd'hui, le tennis anglais, un peu à l'image du tennis français, a quand même pas mal de soucis actuellement.
Plus le tennis britannique. Que le tennis français.
Exactement.
Il y a quand même plus de joueurs français qui aujourd'hui sur les cours.
Andy Murray est l'exception. Il y a personne d'autre en Angleterre.
Bon, on est d'accord, mais parfois un joueur suffit également. Hein. Je vous rappelle que là, on a peut-être un joueur
qui a gagné combien de tournois du Grand Chelem, Andy Murray?
Zéro.
Voilà.
Bah. Bon. Et oui, mais alors nos
Français. Il ne fait pas déplacer les foules, ce garçon.
Mais nos Français, ils ont gagné combien de tournois du Grand Chelem?
Oui, mais on en a un petit peu plus.
Ça vous fait une belle jambe, ça. Si je peux me permettre, c'est que l'équipe de France brille, notamment lors de parcours en Coupe Davis, qui permettent de raviver régulièrement la flamme du tennis en Angleterre. Il n'y a que Wimbledon qui ravive la flamme du tennis.
Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment finalement cette Coupe Davis dans le tennis? Franchement, là
non,
aussi,
non,
c'est peut-être l'occasion d'un débat.
Non.
Nous, on en fait tout un truc parce qu'il y a eu Lyon formidable, Forger, machin. J'allais dire Gnassia, mais pas du tout.
Il y a eu des matchs historiques. France-États-Unis, France-Suède. Des matchs historiques.
Franchement. Vous pensez vraiment
battre Agassi, battre Sampras et compagnie?
Non, mais on est d'accord. Mais là, je me tourne vers Clément Grèce. Je sais pas si Eric Silvestro est de retour. Aujourd'hui, vous allez voir Gaël Monfils et vous lui dites: bon, Coco, t'as le choix entre remporter le tournoi de Roland Garros ou alors remporter la Coupe Davis. Mm-hmm. Parce qu'on en fait tout un pataquès, la Coupe Davis, l'équipe de France, les potes, machin, etc. Finalement, on se rend compte parfois.
Je pense qu'il préfère gagner Roland Garros.
Ah, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Ouais, mais il est plus apte à gagner.
D'un autre côté, si on lui propose de gagner un tournoi au Masters 1000, et en fait, avec Roland Garros, on parle du Graal du tennis. C'est-à-dire que vous expliquez à un joueur, son rêve de gosse, c'est évidemment de gagner Roland Garros. C'est ce qu'il a vu le plus souvent à la télévision, c'est tous les ans ce qu'il attendait. En plus, Roland Garros, dans l'imaginaire des enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez un petit peu plus jeune, mais Roland Garros, ça correspond à peu près à la fin de l'année scolaire. C'est-à-dire que généralement, la fin de l'année, quand on est jeune et qu'on aime le sport, ça correspond à peu près à Roland Garros. Et il y a des matchs qu'on loupe parce qu'on est en cours. Souvenez-vous, le bac, vous l'avez tous eu. Le bac, ça correspond à peu près à Roland Garros. Il faut réviser le bac pendant Roland Garros. Et moi, j'ai le souvenir de ma jeunesse, qui n'est pas si lointaine. Et bien, je peux vous dire que je passais plus de temps à regarder Roland Garros qu'à réviser mon bac.
Et maintenant, vous comprenez pourquoi moi, je préfère le cyclisme. Parce qu'au mois de juillet, j'étais tranquille, je pouvais vraiment rester devant le vélo.
Oui.
Et comme je suis beaucoup plus sérieux que vous.
C'est pour ça que
pendant le bac, je ne travaillais que le bac et je ne regardais pas le tennis.
C'est pour ça que vous êtes blanc comme vos fesses.
Exactement.
Parce que le Tour de France, vous le regardiez à la télé pendant tout le mois de juillet.
Vous avez bien compris.
Et moi, je décuvais devant le Tour de France lorsque j'étais jeune. C'est-à-dire que je sortais le soir en boîte et le lendemain, je me réveillais devant Roland Garros.
En tout cas, voilà, c'est juste pour faire remarquer que ce tournoi de Roland Garros ne passionne pas les foules outre-Manche.
Et autre question pour Clément Grèze. Si mon fils, on lui propose une demi-finale, entre une demi-finale à Roland et la Coupe Davis.
La Coupe Davis. Directement. Directement. Non, mais pour une simple et bonne raison, c'est tout quand même Gaël Monfils, on a beau lui reprocher énormément de choses. Et j'ai
un autre joueur, ça peut être Simon, ça peut être son gars.
Oui, non, mais même les demi-finales, c'est pas gagner un tournoi. Un beau parcours dans un tournoi du Grand Chelem, ça se finit par une défaite. Une victoire en Coupe Davis, ça se finit par une victoire. Et ça change tout. C'est quand même des très très grands champions, même si on a tendance à les critiquer parce qu'effectivement, ils ont sans doute très souvent un mental un petit peu friable. On a quand même face à nous des gens qui sont parmi les 15-20 meilleurs de leur sport dans le monde. Voilà, ils sont quand même des immenses champions, même si ça gagne pas, même s'ils sont pas des légendes et même s'ils rentreront peut-être pas dans la très très grande histoire de leur sport, sont quand même des gens qui ont une capacité exceptionnelle et un talent particulier et des qualités incroyables.
Et effectivement, alors que dans la mémoire collective, le fait de gagner une Coupe Davis, on évoquait tout à l'heure les France-Suède, vous évoquiez Lyon, etc. mais ça, ça reste.
Lyon 91, oui, Lyon 91 sont des plus beaux souvenirs de sport de gens de ma génération. Oh. Ça fait partie des plus beaux souvenirs des gens de ma génération.
Alors, ça, et franchement, pourquoi? Pourquoi?
Mais parce que c'était fantastique. Parce que
mais façade... parce que tout le monde se souvient de Saga Africa.
Mais il y a eu après, il n'y a pas eu que ça. Mais ça, c'est encore plus vieux.
Ce dont les gens se souviennent sont les trois qui étaient sur le banc pendant que Guy Forget était en train de disputer le match décisif face à Pete Sampras. Et alors que Guy Forget était en train de servir, on les voyait qui comptaient les points et qui montraient avec leurs mains. Il restait 4 points et à chaque fois que Guy Forget en mettait un, il baissait un doigt et ça faisait 3 et ça faisait 2. Sont ces images-là qui restent. Mais c'est la joie de Guy Forget qui s'effondre sur le court, les fesses en arrière et qui vient être pris dans ses bras par Yannick Noah, c'est toute cette foule en délire. C'était les anciens mousquetaires qui étaient encore présents, qui étaient encore vivants à l'époque et qui se lèvent. Et tout ce stade qui hurlait de bonheur parce que la Coupe Davis, c'est quand même un sentiment national, c'est quand même une espèce de fierté populaire un peu cocardière qui nous permet à tous de nous lever en même temps et de te satisfaire en même temps. Et la Coupe Davis, c'est ça, c'est 96 avec Arnaud Butch qui va battre au terme d'un match exceptionnel de densité,
3 balles de match, c'est ça, hein,
en sauvant des balles de match.
Ah oui, on s'en souvient d'Arnaud Butch, ouais.
0-40,
face à Kulti. C'est voilà, sont des épopées comme ça.
Mais arrêtez de nous vendre, de nous survendre la formidable histoire du tennis. On n'a pas un joueur capable de remporter un tournoi du Grand Chelem.
Mais c'est pas grave, on n'a pas un coureur capable de gagner le Tour de France et ça nous empêche pas d'aimer le vélo.
Ouais, mais on l'aime un petit peu moins quand on perd.
Ouais,
quand
mais
même.
On l'aime quand même.
Ouais, mais un petit peu moins quand on perd tout de même. Allez, on rappelle Clément que c'est Murray, hein, qui a remporté le premier jeu là.
Exactement, et Raphaël Nadal qui vient d'égaliser à l'instant. Pour l'instant, un match qui promet quelques filières longues. On a vu Andy Murray très présent en début de match. Alors je vais vous rassurer parce que il y avait quelques inquiétudes, quelques angoisses sur la cheville d'Andy Murray qu'il s'était tordu à l'occasion de son deuxième tour, on s'en souvient, face à Michael Behrer, face à son troisième tour, pardon, l'Allemand qu'il avait battu en 3-7. On avait quelques inquiétudes. Je vous rassure, ça va bien. Il joue même sans strap. Il déteste jouer avec des straps. Donc, il va très très bien pour l'instant. Andy Murray, il est au service. Les deux joueurs qui se sont neutralisés sur leur mise en jeu. Sachez juste que les deux joueurs ont tous les deux gagné 15-7. C'est logique puisqu'ils ont remporté 5 matchs. Ils en ont perdu 2 tous les deux. Et que c'est Raphaël Nadal des deux joueurs qui a passé le plus de temps sur le court. Puisqu'il en est à 14 heures de jeu depuis le début de cette quinzaine. Contre un peu moins de 13 heures pour Andy Murray.
Alors, moi, j'aimerais parler de l'autre demi-finale à présent. Il nous reste moins de 5 minutes. Celle qui va opposer un petit peu plus tard, on l'a bien compris, Roger Federer à Novak Djokovic. On rappelle que Djoko, il a un match en moins dans les cannes.
Exactement.
C'est scandaleux quand même.
Mais non.
Mais non!
C'est scandaleux!
Mais c'est le règlement! Mais c'est la règle! Tu vas pas repêcher un mec qui a perdu, non, Manu!
Mais ça y est, il a gagné Djoko! Il a gagné Djoko!
Il avait qu'à gagner Montagnès contre l'Italien!
Je comprends pas pourquoi Emmanuel s'évertue à remettre depuis 3 jours ce débat sur la table!
Parce que tu fais ça tous les jours!
On le défonce à chaque fois qu'il essaye de mettre.
Mais il a gagné Djoko! Il a gagné!
Et Fonini a gagné! C'est Fonini qui a gagné contre Montanès.
Djoko a gagné Roland Garros.
En gros, tu voulais faire quoi? Tu voulais repêcher Montanès.
Oui, exactement.
Mais il a perdu. Tu vas pas repêcher un perdant. Et s'il gagne le tournoi, comment tu fais?
Exceptionnellement, on le repêche.
Mais non, ça n'existe pas.
Je vous dis que voilà, il y a un désintérêt total. C'est plié.
Montanès,
c'est Djoko.
S'il avait qu'à gagner contre
Djoko. Écoutez-moi bien. Et la semaine prochaine, on garde la bande. Hein. Quasiment une des dernières, mais on garde la bande. Djoko gagne Roland Garros, ça c'est une certitude. Il a un match en moins sur une quinzaine.
Et ça fait partie des
aléas. C'est un avantage énorme, Clément Grèze.
Oui, mais c'est un avantage. Comme... Évidemment que c'est un avantage, mais la question n'est pas de nier que ce soit un avantage. Vous voulez repêcher quelqu'un qui a perdu le jour où Albert Montanès gagne le tournoi de Roland Garros alors qu'il a perdu en 8e de finale, vous avez l'air malin.
Mais oui, mais bon. Je suis désolé.
On est d'accord, ça arrive, ça, sur les premiers tours avec les lucky losers, c'est bien
Non, les lucky losers, c'est pas exactement ça. C'est lorsqu'il y a un forfait dans le tableau principal au premier tour, on va repêcher quelqu'un a perdu lors des qualifications. Mais là, c'est pas du tout pareil. Remplir le tableau.
Oui, c'est un peu pareil.
Mais non, par exemple, regardez sur le Tour de France.
On va quand même repêcher un perdant.
S'il y a une équipe qui déclare forfait juste avant le début du Tour de France, eh bien, on va repêcher une équipe.
Oui.
Bon bah voilà.
On la repêche pas pendant.
On la repêche avant.
D'accord.
Avant le début de la phase finale.
Ouais, mais alors là, je vais vous dire, c'est un mauvais exemple. Vous savez pourquoi? Parce que on peut pas évidemment. Il faut savoir que si après une semaine de course, si on va repêcher une équipe, il y a toute une équipe, 9 coureurs qui arrivent, qui sont frais, alors que les autres coureurs sont fatigués.
Mais donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Par exemple, dans le football,
quel que soit le sport,
ça ne s'est jamais vu dans le football, ça.
Il y a tout un tas de raisons pour ne pas permettre ce type de repêchage. Voilà, on est dans une situation où Albert Montanès a perdu en quart de finale. Fabio Fognini s'est qualifié. Qu'il dispute le premier jeu ou qu'il ne le dispute pas, il abandonne. Il n'est pas présent sur le court.
D'accord. Alors,
Coupe du monde de football.
Juste, je vais poser une question à Clément et après, je vous laisse la parole. On va pas en faire un débat, mais Clément Grèze,
c'est ce qu'on est en train de faire.
Je veux juste vous entendre dire que maintenant, le tournoi, le tableau masculin est biaisé.
Mais il n'est pas biaisé.
Ah, vous ne pouvez pas dire ça.
Mais non.
Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Mais attendez, alors attendez.
Normal
je
ou pas normal, ça c'est un autre débat.
Alors on va
mais il est biaisé.
Non, mais on va prendre un
il est biaisé, il a un match
Manu,
en moins.
Manu. Manu.
Allez-y.
Manu. Si jamais Fabio Fognini était rentré sur le court face à Novak Djokovic et qu'au bout d'un point, il avait dit « Aïe, j'ai mal à l'épaule », est-ce que vous seriez en train de me tenir le même discours?
Eh ben oui.
D'accord. Donc on n'a pas le droit d'abandonner en fait.
On a le droit d'abandonner. On est mais d'accord, après, les circonstances profitent à Djoko, mais
c'est un concours de circonstances.
Voilà, mais on ne peut pas nier que malheureusement ces circonstances favorisent Djokovic non. Et que quelque part le tableau est un peu biaisé.
Mais non, c'est pas biaisé, ce sont des circonstances. Ouais. Un biais, c'est un problème. Des circonstances sont un hasard.
Bah, je pense que c'est un problème pour les autres joueurs de constater que Djoko, il a
mais
un match en moins dans les
problème.
Jambes.
Ils se sont juste dit qu'il avait de la chance.
Et n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus.
Était tranquille. Mais non, regardez, au deuxième tour, Novak Djokovic, il a profité de l'abandon au troisième set de Victor Anescu.
Fallait lui faire jouer un match. Fallait lui faire jouer un match. Face à n'importe qui, l'arbitre, un spectateur.
Mais il a joué comme McEnroe, on se parle une partie.
Oui, j'ai vu.
Donc, grosso modo, vous êtes d'accord pour dire que vous dites n'importe quoi, mais vous avez envie de faire du débat.
Non, là, je fais un peu du show. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quand même dommage parce que je trouve qu'il a un match en moins dans les cannes et on sait que c'est important sur une quinzaine. Et c'est déjà un des meilleurs. C'est lui qui pratique le meilleur tennis aujourd'hui quasiment. Et je pense que pour ses adversaires, ça va être compliqué. La fraîcheur est évidemment importante. Il fait chaud en plus sur les conditions climatiques sont quand même. Oh, pas désastreuse, mais bon.
Vous pouvez dire à Raphaël Sebaoun qui me fait hurler de rire.
Ouais, oui, il fait du tennis de table, Raphaël Sebaoun. Bon, vous l'avez compris.
Pour cet été, je fais le tennis de table.
C'est la fin.
Pour Raphaël Nadal.
C'est la fin de ce Café des Sports.
On suit la balle de break ou pas?
Allez, on suit la balle de break.
Allez, on va suivre la balle de break avec Andy Murray qui est au service. C'est le troisième jeu de cette première manche entre Rafa Nadal et Andy Murray. Le Britannique, l'Écossais plus exactement, qui avait remporté le premier jeu. Raphaël Nadal a égalisé dans la foulée en serrant le point car il sait que c'est un moment important. Ce début de rencontre et il met la pression tout de suite sur Andy Murray qui doit sauver sa deuxième balle de break consécutive et bien puisque Andy Murray pour l'instant est quelque peu en difficulté dans ce début de rencontre. Raphaël Nadal qui mène avantage donc face à Andy Murray, l'Écossais au service sur le Philippe Châtrier baigné par le soleil pour l'instant. Le service de Andy Murray qui va bien venir la sauver peut-être au filet et le passing de Raphaël Nadal qui va breaker tout de suite. Voilà le premier avantage pris dans cette rencontre par l'Espagnol qui mène désormais 2-1. C'est la pause, 1 minute 30 pour se reposer pour tout le monde et pour vous aussi.
Allez, on vous retrouve d'ici quelques minutes bien évidemment pour le tennis en grand format. Cette fois-ci, je remercie Salim Mangali, je remercie Raphaël Sebaoun. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est de la radio, vous inquiétez pas Raphaël, on fait une courte pause. Le point sur toute l'actu sport et puis bien sûr le tennis juste derrière.
Bien sûr.
Le Café des Sports, c'est également à écouter en podcast sur rtl.fr.